Voix nue. Cette semaine, France Culture rend hommage à Michel Piccoli, récemment disparu. En 2006, Laure Adler s'entretenait avec le comédien. Ce soir, un professionnel au cœur amateur.
Vous êtes un professionnel de la profession, pour paraphraser Jean-Luc Godard.
Oui, mais Jean-Luc Godard a souvent des mots, des phrases et des pensées admirables. C'est pas moi qui... professionnel, mais je suis pas un professionnel de la profession.
Non, justement.
Je fais partie de cette profession. Je suis un très grand professionnel, mais j'ai gardé le cœur amateur.
Mais vous avez tout joué.
Et découvreur, je veux dire.
Y compris la mise en abîme de l'acteur qui doit rentrer dans le champ avec le caméraman dans le champ, comme dans les films de Jean-Luc Godard. Je veux parler du mépris et du mais début
oui.
du mépris.
Oui.
Vous avez joué aussi, toujours chez le même Jean-Luc Godard, Passion, l'histoire d'un acteur qui doit trouver l'inspiration et qui n'en a pas, etc. Comment et pourquoi et dans quelles circonstances, vous qui savez tout de ce que veut dire un tournage, vous qui savez tout ce que ça veut dire le déplacement d'un corps dans un périmètre cerné par des caméras, comment avez-vous, telle Alice au pays des merveilles, franchi le saut et fait le pas pour vous retrouver de l'autre côté de la caméra?
Parce que depuis le temps que je fais des films comme acteur, je savais que ce qui me passionnait quand je fais l'acteur devant la caméra depuis mes débuts, c'est de rester avec ceux qui sont derrière la caméra pendant toute la préparation, pendant toute l'étude de comment doit être la lumière, alors quelle pellicule on va utiliser, alors quel objectif, alors le travelling va aller à telle vitesse. J'ai passé mon temps dans les tournages à rester sur les plateaux de cinéma pendant toute la préparation nécessaire avant que l'on dise « allez chercher les acteurs ». Moi, j'étais resté là, donc c'était pas la peine qu'on aille me chercher. J'étais là. Alors, mais je ne voudrais pas décrier mes partenaires, mais qui fait un film, ce sont ceux qui sont derrière. Ce sont ceux qui écrivent l'histoire, ceux qui font la lumière, les machinistes qui accrochent les projecteurs, le chef opérateur qui connaît tous des secrets chimiques et mécaniques de la caméra et de la pellicule. Et nous, les acteurs, nous arrivons non pas comme la cinquième roue du carrosse, pas du tout, mais comme des prototypes qui arrivent, qui sont des prototypes extraordinaires, exceptionnels, de beauté, d'intelligence. Ils vont dire des choses extrêmement drôles, extrêmement intelligentes, comme on veut. Ils vont être très sages ou très fous, selon leur tempérament. Mais nous existons grâce à tout le travail qui a été fait en amont. Et moi, je passais mon temps à regarder ce qui se passait. Donc j'ai appris le métier des mécaniques d'un tournage d'un film. Et ça fait très longtemps que je me disais, mais ça doit être tellement plus passionnant d'être derrière que devant. Alors maintenant, je trouve que d'être devant, c'est très 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 amusant, mais beaucoup moins passionnant que d'être derrière la caméra.
D'abord, donc, avez commencé à petits pas en étant producteur avant d'être réalisateur.
Oui, mais je travaillais très sérieusement, mais j'ai pas l'âme d'un producteur. C'est pas tellement, non. J'ai vite lâché dès qu'il y a eu un peu de dette. C'est très lâche. Non, mais j'étais pas fait pour être un producteur du tout, du tout.
Mais pour être un réalisateur, oui.
Je crois, oui, je crois, oui, 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 sans doute. Enfin, quand je dis « oui, sans doute », c'est pour ne pas avoir l'air orgueilleux et rester modeste au lieu de dire « oui, sûrement ».
Vous avez commencé par un court-métrage.
De 3 minutes.
C'est très difficile, 3 minutes. Aussi difficile qu'un long.
C'est aussi difficile, oui. Mais c'est faire un essai, c'est risquer moins de finances et moins de pertes de temps des collaborateurs. Donc, c'est une manière de... J'ai fait ça pour me lancer et découvrir si j'étais capable de. Et j'ai découvert que ça me passionnait et que j'étais capable de faire.
Alors c'était parti.
Oui, oui. Après, je suis passé à 20 minutes, après à 1h30, après à 2h-5, après à 1h10. Et voilà, ce sont des films, paraît-il, bizarres, mais et qui en passionnent pas mal. Voilà. Pas suffisamment pour s'enrichir financièrement.
Donc le premier long s'appelait Alors voilà.
Alors voilà, point de suspension.
Et c'est un titre très emblématique du ton du film, parce que alors voilà quoi, ben justement, il se passe tellement de choses absolument étranges et...
Dans ce film ?
Oui.
Oui, alors voilà, voilà les histoires de deux familles d'origine modeste, comme on dit, et avec leur fantasme extraordinaire.
Vous parliez
parce
de
Buñuel.
Parce
que les gens modestes ont aussi des fantasmes et peuvent avoir le goût du délire d'une façon extraordinaire.
Mais dans Alors voilà, vous parliez de Buñuel avant-hier, il y a des roulottes, il y a des gens qui vivent dans des terrains vagues, il y a beaucoup d'absence d'ancrage social. Les gens n'existent que par leur propre individualité, parce qu'ils sont au monde et dans le monde, et non pas parce qu'ils ont des étiquettes. Chez vous et dans tous vos films, c'est très prégnant, ça, cette impression, en tout cas que j'ai eue. Et avant-hier, vous parliez de Buñuel, mais il y a une atmosphère comme ça, un peu de forains qui, comme ça, au gré des pérégrinations, vont rejouer leur sort et leur destin dans vos films.
Oui, pas dans le dernier, je ne pense pas. Enfin, peut-être que l'homme qui devient veuf et de sa femme et de sa maîtresse, peut-être va-t-il enfin réussir à se trouver la vie à laquelle il rêve. Hein ?
Oui, parce que le titre, c'est pas la vie que j'avais rêvée.
C'est pas tout à fait la vie dont j'avais rêvé. Là, peut-être va-t-il avoir l'énergie, le goût de trouver la vie dont il rêve encore.
Ce qui est très étrange, c'est que chez vous, Michel Piccoli, en tant que réalisateur, il n'y a pas de dissociation ni de frontières véritablement établies, cartographiées, entre le réel et l'imaginaire. C'est surréel. Vous parliez, au cours de cette semaine, de votre amour pour André de Richaud. On a l'impression que vous êtes aussi un des héritiers de ce mouvement littéraire où la porosité entre le réel et l'imaginaire...
Oui, ça, je crois que... Vous savez, nous sommes tous entre notre réel et notre imaginaire. Ah oui, je pense vraiment. Même les personnes qui ont des métiers ou des disciplines qui n'ont rien à voir avec l'imaginaire, qui peuvent aussi avoir une vie difficultueuse, douloureuse, lourde à porter, tout ce que vous voulez, il y a quand même... Entre l'obligation de mener la vie que l'on a été capable de se faire ou incapable de se faire, et puis son imaginaire, ça existe, pour moi, ça existe dans le cœur de chaque individu, de toute catégorie sociale. Qu'il soit artiste, constructeur d'avions ou simple balayeur des rues. Je pense que tout individu, je suis profondément persuadé de ça, assume sa vie quotidienne, comme on dit, sa vie lourde ou moins lourde de son existence et de l'existence de ceux qu'il fait vivre. Et en même temps, l'imaginaire continue à exister, continue à lutter pour imaginer des rêves, non ? Moi, je pense que c'est ça, la vie de la plupart des gens. Même si rien ne se réalise dans le rêve. Mais le rêve existe. Et moi, ce que j'aime dans le cinéma, justement, ce sont les films qui ne sont pas mâchés, qui ne racontent pas « Ah, il est amoureux de cette dame et cette dame est amoureuse de lui, mais alors elle trompe son mari, mais alors c'est pas bien. » Non, ça n'a aucun intérêt, ça. Aucun intérêt, je veux dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est de quelle manière chaque individu réussit à s'incruster dans sa vie de tous les jours, sa vie honnête, sa vie quelconque, sa vie visible, et sa vie de rêve, de cauchemar, de délire.
Ben, encore faut-il avoir la force de se laisser abandonner volontairement à sa capacité d'onirisme.
D'onirisme ?
Oui.
Ah, mais il y a des personnes qui n'ont pas cette faculté, mais qui en souffrent, et qui, je suis sûr, de temps en temps, ont un éclair de rêve ou de délire dans son existence, dans le regard qu'il peut avoir sur sa femme, la femme qui peut avoir le regard sur son mari, sur ses enfants. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Est-ce que je ne pourrais pas faire autre chose sur Terre? Vous comprenez? Je suis sûr que tout le monde se pose ces questions. Le sachant ou ne le sachant pas. Ou n'osant pas se l'avouer.
On a l'impression, en tant que spectateur de vos films, qu'on est presque un voyeur obscène, parce que on a l'impression, en tout cas, d'être en prise consciente et en court-circuitage avec votre propre imaginaire.
Merci.
C'est pas du chiquet.
Ah non, non, c'est pas du chiquet du tout, c'est...
Vous avez dit du mâché, mais c'est...
Du
Vous avez
du
dit
mâché.
Je déteste les films mâchés où
oui,
tout,
oui, oui.
Où il n'y a pas de place pour le spectateur. Là, il y a toute la place pour le spectateur.
Il y a toute la place si le spectateur a le goût de la psychanalyse, de la chirurgie de nos existences, de la chirurgie de nos maladies internes, de nos pulsions folles ou impossibles, vous comprenez? Et c'est ça qui, je trouve, au cinéma, est passionnant, c'est-à-dire de filmer l'imaginaire des personnages que l'on voit évoluer. Voilà.
Qu'est-ce qui fait image pour vous, Michel Piccoli? Quand est-ce que ça devient une image? Quand vous tournez, vous, en tant que réalisateur?
Quand ça devient une image?
Oui.
En essayant d'écrire le scénario, déjà.
Oui, mais justement, moi qui ai eu la chance de pouvoir lire le scénario de « C'est pas la vie » dont j'avais rêvé, j'ai vu que le film n'était pas l'exacte retranscription du scénario, pas tout à fait.
C'est vrai, parce que les personnes qui ont travaillé avec moi, et les acteurs, et le décorateur, m'ont fait aller dans un chemin beaucoup plus ludique, grotesque, que le scénario qui était...
Coupé au cordeau.
Oui, je pensais qu'il fallait faire un film austère, sévère, rigoureux et psychanalytique. Et c'est devenu une farce. Mais une farce douloureuse et une farce psychanalytique, non? Mais ça, j'ai été aidé. J'ai beaucoup participé au travail du décorateur. Au fur et à mesure, et avec les acteurs qui étaient choisis depuis longtemps, je me suis aperçu que ça serait beaucoup mieux d'aller dans la farce que dans l'étude psychanalytique. Et que la farce n'enlèverait absolument rien au délire psychanalytique de cette histoire. C'est clair? Mais grâce à ce film, je vais vous lire deux lettres que j'ai reçues. Il y en a une qui dit ceci. Les enjeux terribles du monde voudraient-ils encore broyer votre jeu, qu'il resterait debout, véhément jusqu'à l'altesse, formidable. Et les crises de société et les abominables trahisons et les pagailles de cerveaux avides et les minuscules blessures importantes, comme ces obstacles majeurs font de belles rides à votre être en scène. Comme ces anéantissements lourds révèlent la hauteur de l'homme qui ne joue plus, qui se tient vénérable au-delà. C'est pas extraordinaire? Qu'on déclenche des paroles, comme des écrits comme ça à une personne. Et alors il y a une autre lettre. Lorsque l'on vous a vu à l'émission de télé chez Fogiel, mon Dieu, ce que vous êtes devenu un vieillard, à votre grand âge, et avec tout ce que vous avez gagné, vous pourriez profiter de votre belle retraite. Ma fille habite le 93 et a eu sa voiture brûlée par ces voyous arabes que nous tous nous assistons avec nos impôts. Et voir des voitures brûlées par centaines, c'est plus choquant que de nettoyer ces quartiers avec le Karcher. C'est vous qui pétez les plombs en montrant votre sale gueule de normand, de vieux crouton. Salut, vieux con. Signé Jacqueline Monet ou Manet. Alors, Jacqueline, si tu m'entends, comme j'ai pas le temps de répondre à toutes les lettres, eh bien, je vais très bien, merci, au revoir.
Et le prochain film, alors?
Non, c'est bien, ces deux lettres, non? L'une à côté de l'autre.
Oui, bah, c'est-à-dire que vous devez y être habitué depuis le temps.
Non, je suis habitué à rien.
Je veux dire, on vous arrête dans la rue, on vous raconte les périples et les tourments des existences. Vous êtes un confesseur, de toute façon vous l'avez été dans Buñuel, mais j'imagine que... Vous
confesseur
êtes devenu, oui, non, mais vous êtes devenu tellement plein de notoriété, saturé de notoriété, que j'imagine que plein de gens vous confient plein de choses tout le temps. Ça doit vous encombrer, tout ça. Alors voilà, quelquefois, c'est des lettres de philosophes.
Et... Ça peut être encombrant, mais c'est aussi très, très passionnant, très intéressant. Ça peut expliquer, justement, comment des personnes peuvent si différemment ouvrir leur cœur et leur malheur et leur bonheur d'une façon si vulgaire et méchante et aigre. Et l'autre, d'une façon si philosophique et amoureuse de la vie, vous comprenez? Alors ça, c'est comme quoi il faut savoir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, contrairement à ce que croient beaucoup de gens.
Vous devriez envoyer un ticket de cinéma à cette Madame Monet ou cette Madame Manet pour qu'elle aille voir votre dernier film, parce que là, je pense qu'elle... comprendrait ce que ça veut dire péter les plombs, mais elle le verrait sur l'écran et peut-être qu'elle en ressortirait régénérée et rassurée sur le sort de la société.
Non, je pense qu'il faudrait que j'ouvre un cabinet médico, psychanalytico, artistico, pour accueillir tous les malheureux de la terre ou tous les furieux, voilà.
Vous avez dit au début de cette semaine, au cours des entretiens, que dès le début de votre travail d'acteur, vous écoutiez beaucoup et que même aujourd'hui, lors des répétitions de théâtre, vous attendiez la réplique pour pouvoir essayer de comprendre ce que vous alliez et comment vous alliez le dire.
Bien sûr, parce que à moins qu'on fasse un one-man show, pourquoi pas? Je veux dire, on joue, on emprunte l'œuvre d'un écrivain. On lui vole, non? Parce que c'est nous qui disons son texte, donc le comédien peut croire que c'est lui qui l'a inventé, s'il est très con et présomptueux, et aussi le public peut croire que c'est nous qui l'inventons. Mais alors, il faut être attentif à l'auteur, il faut être très fidèle à l'auteur, il faut être attentif au metteur en scène, créateur du spectacle, et il faut être très très attentif aux partenaires. On ne peut pas jouer de telle façon qu'on aurait pu imaginer si on était un grand solitaire cabot. Il faut attendre ce que l'autre va vous apporter, le partenaire ou la partenaire, de façon à savoir de quelle manière vous allez pouvoir entrer dans son jeu et en même temps lui voler son jeu.
Et quand vous êtes de l'autre côté de la caméra, est-ce que vous avez l'impression aussi de voler à vos acteurs des choses à leur insu ?
Oui. Je leur propose des choses, je leur dis de faire une chose qui peut les surprendre, mais qui va au tréfond qui surpasse sa timidité ou sa pudeur. Parce que les acteurs sont souvent très timides. Nous sommes souvent très timides et très pudiques.
Et très furieux aussi.
Les acteurs ?
Oui.
Furieux de quoi ? D'être intermittent ?
Par exemple, mais de l'existence. Il paraît que vous êtes un homme qui pouvait avoir des colères terribles.
Il paraît. Enfin, des colères terribles. Oui, oui. Il m'arrive d'avoir des colères, oui. Mais souvent à retardement.
C'est pas des vraies colères, alors ?
Oh, si, ce sont des colères qui bouent depuis très longtemps et que j'ose enfin laisser paraître. Mais ce sont des colères passionnelles. Ce ne sont pas des colères douloureuses, ce sont des colères passionnelles.
Parmi vos regrets figure celui de ne pas avoir tourné avec Robert Bresson ?
Ah oui, mais heureusement j'ai tourné avec Yoselani, qui n'emploie que des amateurs. Mais oui, un de mes rêves...
Vous avez réussi.
J'ai réussi, oui, mais pas avec Bresson, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé que Bresson me croise dans la rue et me dise « Monsieur, je vais faire un film, je m'appelle Robert Bresson, vous ne voudriez pas être un de mes modèles ou je voudrais vous parler ?» Ah, j'aurais été fou de joie, parce que j'aurais joué à celui qui n'est pas acteur et en travaillant avec lui, j'aurais su ne pas être acteur, mais être modèle. Comprenez-vous ? Ne plus être professionnel, devenir un amateur innocent.
Mais vous l'avez peut-être toujours été.
Amateur innocent ? Pardon de me complimenter, je pense que je le suis. Alors que beaucoup disent que je suis un grand professionnel, je n'aime pas beaucoup cette appellation.
Et jouer l'homme invisible ?
Oh, ben ça, écoutez. Tiens, je vais le proposer à Yoseliani, peut-être. J'aimerais bien jouer l'homme invisible, oui. Mais pour paraître, quand même, hein. Attention, à la fin du film, j'enlèverai mes bandelettes et on verrait mon visage, hein. Faut pas se tromper.
Merci Michel Piccoli, à demain pour le dernier entretien.
Alors à demain. Thank you.
Vous retrouverez demain la suite de cet entretien enregistré en 2006 entre Laure Adler et Michel Piccoli, récemment disparu. À voix nue, réalisation Véronique Samouilov, Laurent Polré. Attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.